AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé. Je suis très content de retrouver le docteur Alouche et j'ai appris quelque chose de nouveau ce matin. Le docteur Alouche est gaucher.
Oui, oui, je suis gaucher, tout à fait. Je suis gaucher, j'ai vraiment plein de défauts. Et j'ai celui-là, le gaucher. Mais il y a un petit truc qu'il faut savoir chez les gauchers.
Ouais.
C'est que normalement le centre pour l'écriture, il est à gauche dans le cerveau. Et vous savez que c'est inversé. Donc un droitier a moins de chemin à faire pour aller du cerveau gauche à la main droite. Le gaucher, il faut qu'il fasse tout le tour. Donc ça veut dire que pour écrire à la même vitesse, il faut qu'il ait une conduction nerveuse un tout petit peu plus rapide. C'est pour ça que ça fait des personnalités parfois, on va dire, attachantes.
Je voilà. N'ai rien dit. Vous êtes très attachant, voilà, docteur. Très attachant.
Mais enfin bon, il y a...
Mais est-ce que vous écrivez des deux mains ?
Non, je ne suis pas ambidextre.
D'accord.
Je suis très admiratif des gens qui peuvent faire ça. C'est très impressionnant. J'avais un professeur en médecine qui était ORL. Et il prenait la craie au tableau, à l'époque il y avait des craies au tableau, et il prenait à gauche et puis il finissait à droite. Ça, je peux vous dire que ça, c'est très très impressionnant. Voilà.
Et on appelle ça comment ?
L'ambidex.
C'est ambidex.
Ambidex, c'est-à-dire qu'il prend les deux, il prend les deux mains.
Très bien.
Enfin, pendant longtemps, le gaucher a été mal vu quand même. Hein.
Et on lui prêtait plein de tares.
Oui, plein de tares. En fait, c'est l'inverse. Mais c'est que tout simplement, je pense qu'il y a quelques siècles, on avait ce qui n'était pas comme nous, comme tout le monde, était considéré comme soit c'était magique, soit c'était... Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, regardez ce qu'on a fait, regardez ce qu'on a fait aux roues, par exemple.
Ah oui, c'était un peu du même ordre, mais...
aux albinos.
Beaucoup d'enfants gauchers, on les a obligés à écrire à droite.
Oui, on les a contrariés, ce qu'on dit, contrariés. Ouais. Alors ça, c'est un vrai problème, parce qu'après, ça peut faire des troubles de la diction, ça peut faire de la dyslexie, ça peut faire plein de choses, oui. Vous ne contrariez pas la nature. La nature... Personne n'en a le contrôle.
Et ça, on le voit en ce moment.
Exactement.
Alors, docteur Réginald Alouche, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, est ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et vous publiez la nouvelle méthode hépatodétox, mincir durablement et sans danger grâce au foie. Alors, quand je dis la nouvelle, ce n'est pas vraiment le titre, mais c'est la nouvelle version de votre méthode hépatodétox.
Oui, parce qu'il faut être très, très franc et très honnête. En médecine, il se passe beaucoup de choses. Une année aujourd'hui, c'est 10 ans, il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de choses qu'on apprend, il y a des médicaments qui sortent, il y a de nouveaux espoirs qui se créent, il y a aussi des maladies qui se compliquent. Et donc, il faut, quand vous faites un livre, votre responsabilité, c'est de toujours le garder à jour et de pouvoir, comme ça, donner la meilleure information possible pour les gens. Parce que sinon, bon. Alors, de vous à moi, une nouvelle méthode, enfin une nouvelle
version de votre méthode.
Voilà, bah c'est vraiment du travail parce qu'il faut tout revoir, quoi.
C'est pour ça qu'on découvre dans cette méthode les nouveaux régimes de chacun, les no-glus, les no-milk, les no-glu-no-milk, les végétariens, toutes ces nouveautés.
Toutes ces nouveautés, parce qu'il y a des gens qui veulent donner un autre sens à leur vie, qui pensent que par l'alimentation, on peut changer des choses. Et je trouve que c'est légitime, hein. Chacun trouve et voit midi à sa porte, et on peut avoir une très belle vie en ayant des régimes très particuliers, s'ils ne sont pas dangereux. Et surtout, faire attention avec les enfants. Je rappelle qu'un enfant est en pleine croissance, donc régime et enfant, ça ne va pas ensemble. Hein.
Alors vous n'utilisez pas le mot régime, mais le mot équilibre alimentaire,
oui.
Que j'aime bien d'ailleurs comme expression.
Oui, parce que régime, ça veut dire quoi régime ? On est tous, par exemple, nous sommes tous aujourd'hui au régime hypercalorique. On mange tous trop, donc on est tous au régime. Mais dans la tête des gens aujourd'hui, le régime c'est hypocalorique, c'est restrictif. En fait, je ne crois pas à la restriction. Je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir un régime qui vous va. Et si vous êtes capable de vous entendre, d'entendre votre corps et de reconnaître les signaux, vous verrez qu'il y a des produits qui vous font du bien et des produits qui ne vous font pas du bien. Alors, si c'est un repas de fête ou un repas de famille où tout est exceptionnel en très grande quantité, vous savez très bien que le soir même, vous ne serez pas très très bien quand même. Vous serez un peu alourdi, un peu, puis le lendemain matin, vous aurez du mal. Mais en dehors de ça, vous savez que tel ou tel plat vous fait du bien, manger ceci, manger cela vous fait du bien, manger à heure fixe vous fait du bien. Voilà, je le dis toujours à cette antenne, l'organisme adore la routine. Il adore la routine. Et donc la bonne façon de manger, entre guillemets le bon régime, le bon équilibre alimentaire, c'est d'organiser sa routine alimentaire. En sachant quels sont les produits qui vous font du bien et ceux qui ne vous font pas du bien, parce que vous le savez probablement d'ailleurs depuis l'adolescence, et ensuite de faire des exceptions. qu'elle soit familiale, amicale, religieuse. Voilà. À ce moment-là, c'est, vous pouvez vous organiser comme ça et tout ira très bien.
Alors, vous dites que ce n'est pas un régime restrictif, mais il y a deux phases dans votre méthode. Dans la première phase, c'est quand même un peu restrictif, docteur Allouche.
Alors, pourquoi c'est un peu restrictif ? Parce qu'elle s'appelle hépato-détox. Donc, à qui elle s'adresse, au fond ? Elle s'adresse à tous les gens qui, d'abord, ont le risque ou ont vraiment ce qu'on appelle une stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie gras. Ils sont très nombreux en France, les gens qui ont du foie gras. Pourquoi ? Parce que quand le foie, qui est le grand régulateur de la glycémie, ne peut plus stocker dans les adipocytes, c'est-à-dire les cellules spécialisées que vous avez au niveau du ventre, des cuisses, des joues, des bras, quand il n'arrive plus à stocker là, eh ben, il stocke chez lui. Et comme il stocke chez lui, ben, le foie devient gras. Parce que je rappelle que pour stocker du sucre, on le stocke sous deux formes. Soit dans le foie sous forme de glycogène, qui est une grosse molécule qui permet d'avoir 20 minutes de réserve pour l'organisme et particulièrement pour le cerveau en cas de problème. Et puis tout le reste, le sucre, est stocké sous forme de gras. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal. On se dit, ah ben foie gras parce qu'on mange du gras. Non, parce qu'on mange du gras et du sucre et beaucoup de sucre. Pourquoi beaucoup de sucre ? Parce que stocker du sucre sous forme de gras, ben figurez-vous que ça demande beaucoup d'énergie. Pour une molécule de gras générée, on a consommé 0,9 molécules de sucre. C'est-à-dire qu'en fait, le rendement est très très faible. Donc vous voyez, pour faire un foie gras, il faut en manger quand même des choses et pendant des années. Hein. Donc c'est pas, je mange du sucre, il y en a trop, on le met en graisse. C'est vraiment une décision qui prend beaucoup d'énergie au foie et qui alourdit le foie, justement. C'est pour ça que cette phase d'attaque, soyons clairs, toute la semaine, à part le matin où on mange des féculents, donc on mange du pain, dans la journée, pas de féculents, pas de légumineuses. Sauf une fois par semaine, parce qu'il y a un repas d'excès où on peut manger ce qu'on veut.
Et alors, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de protéines dans votre petit déjeuner, dans la phase que vous appelez la phase d'attaque. Hein.
Oui, parce que j'ai privilégié pour le petit déjeuner les formes glucidiques, les formes d'amidon, et ne pas trop charger. Alors, encore une fois.
C'est un choix. Voilà,
c'est un choix.
Non, je vous pose la question.
Je préfère être très très clair.
Oui.
Je ne suis pas le détenteur de la pierre philosophale nutritionnelle. On peut avoir plusieurs types de régimes, plusieurs types de propositions et qui peuvent aboutir à des résultats. Hein. Quand vous avez mal à la tête, vous n'allez pas prendre un produit. Il y en a 10, 15 et ils marchent tous. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ma vision, mon expérience a montré que c'est le matin où on peut consommer des glucides. Et donc, à ce moment-là, ils seront brûlés parce que dans la journée, quand vous voulez le matin, en général, c'est que vous allez bouger, vous allez marcher, vous allez travailler, vous allez parler, vous allez réfléchir, et ainsi de suite. Et donc, les protéines, je les mets à midi et le soir.
Et il y a ensuite une deuxième phase.
En dehors pour le matin, de ceux qui préfèrent le fromage frais, parce qu'il y a un peu les protéines du lait.
Voilà.
Mais en dehors de ça...
Vous êtes en train de gratter, hein.
Vous grattez, mais vous avez raison, parce que c'est des questions que les gens se posent. Et pourquoi ?
Regardez, parce que moi, je préfère les petits déjeuners salés. C'est pour ça que je grattais.
Et beaucoup de gens préfèrent les petits déjeuners salés.
Voilà, c'est pour ça que je grattais.
Mais sur la baguette tradition, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre du fromage frais, vous pouvez mettre des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, franchement, vous voulez un œuf le matin ? Moi, j'ai un œuf le matin.
Oui. Voilà. Oui, je veux un œuf le matin.
Belle affaire.
Voilà.
Le nutritionniste qui va vous dire, ah ben non, parce que l'œuf, on a. Attendez. Vous savez ce qu'il faut pour prouver un fait en nutrition ? Il faut demander à des milliers de gens d'avoir cette attitude, à d'autres milliers de gens de faire une attitude contraire et de comparer 5 ans après. Qui fait ça ? Qui ? Donc, on connaît les processus physiologiques. On sait que le matin, si on prend du fromage, on a les enzymes qui vont permettre de le métaboliser, alors que le soir, on les a moins, et ainsi de suite. Ça, on sait.
On a plus de temps.
Mais il y a des individualités. Chacun est différent. Et il faut respecter cette différence.
J'ai découvert dans votre livre un phénomène qui s'appelle le phénomène du faux ventre.
Du faux ventre.
Ouais. C'est un faux ventre ? C'est un ventre qu'on se colle sur le ventre ?
Non, pas du tout. Non.
C'est quoi le faux ventre, docteur Allouche ?
Le faux ventre, c'est pas... Quand je dis le faux ventre, c'est qu'on peut avoir... Dans le ventre, en fait, vous savez, quand on a un gros ventre, vous avez deux épaisseurs. Vous avez une épaisseur sous-cutanée, c'est-à-dire la graisse qu'on peut attraper avec ses doigts. Hein, on peut l'attraper. Et il y en a une autre qui est à l'intérieur, derrière une membrane qu'on appelle le péritoine et qui entoure tout votre intestin, votre côlon, votre foie. Et donc, cette graisse à l'intérieur, dans le péritoine, elle est beaucoup plus péjorative parce qu'elle est très inflammatoire. C'est elle qui envoie des protéines inflammatoires, ce qu'on appelle des cytokines, et qui vont enflammer le foie. Et dès que le foie est enflammé, Là, c'est le début des ennuis. Et puis, vous avez la graisse sous-cutanée, c'est-à-dire celle qui est là, que vous pouvez prendre à pleine main. Et celle-là, au fond, elle est paradoxale, parce qu'elle est un tout petit peu protectrice. On s'est aperçu que les gens qui avaient un peu ce petit bidon sous-cutané, ce petit ventre sous-cutané, avaient des facteurs de risque diminués par rapport aux autres.
Et voilà. Si je fais des abdos, je le perds ?
Si vous faites des abdos, vous risquez, ça dépend de votre âge. Parce qu'en fait, ces adipocytes, c'est-à-dire ces cellules adipos, gras, cytos, cellules, ces cellules ont des récepteurs sur leur surface. Vous voyez, vous imaginez la cellule, c'est une espèce de petit ballon comme ça, et à la surface, il y a des récepteurs. Et il y a des récepteurs à l'adrénaline. Et ces récepteurs à l'adrénaline, c'est quand vous avez de l'adrénaline, c'est-à-dire du stress des ennuis où vous êtes amoureux, eh bien, cette adrénaline, elle va se fixer sur le récepteur et elle va vider un peu la graisse qui est dedans. Donc, ce qu'on appelle la lipolyse. Et il se trouve qu'après 50 ans, chez les hommes particulièrement, les récepteurs alpha qui sont sur ces petites cellules au niveau du ventre ne répondent plus à la stimulation d'adrénaline. Beaucoup moins, en tout cas. Voilà. Donc, c'est un peu embêtant, quoi.
Docteur Réginald Allouche est avec nous pour nous parler de sa nouvelle méthode hépato-détox. L'éditeur, c'est toujours Albin Michel.
AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon.
Vous pensez avoir fait le tour du foie ? Eh bien non, il y a toujours énormément d'informations sur le foie.
Ah oui.
Notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Réginald Allouche. Et je rappelle, docteur, que vient de sortir la nouvelle version de votre best-seller qui s'appelle « La méthode hépato-détox », mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Et vous expliquez qu'il faut remettre le foie au centre.
Au centre, oui, parce qu'en fait, le foie, il a une petite insuffisance, si j'ose dire. C'est qu'il n'a pas de terminaison nerveuse. Donc, comme il n'a pas de terminaison nerveuse sensitive, il ne fait jamais mal. Comme il ne fait jamais mal, ben on ne s'en occupe pas, on s'en occupait très tard. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est le centre, d'ailleurs, dans médecine chinoise, on l'appelle le général, comme vous le savez, c'est le centre de centaines de transformations biochimiques. Hein. Je rappelle que le foie, il fait les facteurs de coagulation, il fait les protéines de structure à partir des acides aminés alimentaires, il stocke les vitamines, il régule la glycémie, il fabrique la bile qui va permettre de digérer les graisses, enfin, il fabrique le cholestérol, dont on parlera bientôt.
Bien. Qu'est-ce qu'il fait quand on prend des médicaments, par exemple, le foie ?
Le foie, c'est lui qui s'occupe de les désamorcer. C'est le démineur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va rendre le médicament non opératif et donc il va vous débarrasser des médicaments, mais aussi des métaux lourds, des toxiques et de tout ce qu'on peut avaler. C'est pour ça qu'il est surdimensionné.
Voilà, et ça vous expliquait que de toute façon, il est surdimensionné pour faire ce qu'il devrait faire.
On peut vivre avec un foie de 30% de son foie. D'ailleurs, quand on a un greffon d'un donneur, malheureusement, heureusement pour les receveurs, souvent on fait 2-3 greffons avec. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le foie a aussi une capacité merveilleuse, il peut se régénérer. Donc, quand on a un foie en bonne santé, en fait, il s'occupe de tout, il se régénère, il se nettoie, et il vous nettoie. C'est un peu provocateur, le titre hépato-détox, parce qu'en fait, le foie, c'est l'organe qui détoxifie. Et il y a aussi une fonction dont on parle très très peu, c'est le fait que le foie, c'est le cœur du système lymphatique. C'est-à-dire que vous savez qu'on a un système qui est parallèle au système sanguin, artère et veine. On a des canaux qui s'appellent les canaux lymphatiques. Ces canaux lymphatiques, en fait, c'est là où les cellules vont déverser tout ce dont elles n'ont plus besoin ou tout ce qui est toxique. D'accord ? Et ces canaux lymphatiques vont circuler en fonction de l'activité physique, puisque s'il n'y a que les muscles pour les pousser.
C'est-à-dire que si on ne bouge pas, ça ne circule pas, c'est ça ?
Elle circule quand vous allez vous coucher. Parce qu'à un moment, vous allez vous basculer et là, la lymphe va couler. Mais il y a un facteur de 1 à 40 entre quelqu'un qui bouge et quelqu'un qui ne bouge pas. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la lymphe ? C'est un système qui est extrêmement compliqué, où vous avez des canaux où la lymphe circule. On a à peu près entre 6 et 8 litres de lymphe, alors qu'on a 4 litres et demi de sang. Donc, c'est quand même un système très, très important. C'est un liquide un peu blanc, un peu pâle. Vous savez, quand on se blesse, parfois, il y a une espèce d'exudat, truc qui sort un peu. C'est la lymphe. Voilà, c'est ça la lymphe, on en a entre 6 et 8 litres. Et ces 6 et 8 litres n'ont pas de cœur pour bouger. Donc il n'y a que les muscles qui appuient dessus quand on marche et qui font monter la lymphe. Comme ça, parce qu'il y a des petites valves pour éviter que ça revienne. Voilà. Et à un moment...
Mais elles montent jusqu'au foie alors ?
Et voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tous les systèmes lymphatiques vont se jeter dans un canal qui s'appelle le canal thoracique, qui est juste derrière le foie, et qui va dans le foie. Donc en fait, le foie, non seulement il a du sang qui arrive par la veine porte, vous savez, la veine porte, on l'appelle porte parce que c'est la porte du foie, hein. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc tout le sang de votre tube digestif, tout ce que vous mangez, vous avalez, ça va aller dans le foie. Le sang, ce qui en est extrait par votre intestin, vous voyez bien ce qui se passe. Hein. Je mange, ça va dans l'estomac, après ça va dans l'intestin. Et dans l'intestin, ce qui est nutritif, ce, qui est, ce qu'on va prendre, ce qu'on va manger, va être mis dans le sang. Hein, et puis après, le reste qui ne sert à rien va dans les selles. Hein, voilà. Et dans le sang, il va dans le foie. Et le foie va prendre les vitamines, prendre les acides aminés pour faire les protéines de structure, va fabriquer du cholestérol, de la, vésicule, de la bile qui va stocker dans la vésicule biliaire, et ainsi de suite. Mais il a par une porte dérobée, il voit arriver cette lymphe. Et cette lymphe, c'est en fait là où il va débarrasser tous les, toutes les vieilles membranes. En fait, la lymphe, c'est la poubelle de votre corps.
Voilà. C'est les éboueurs.
C'est les éboueurs. Donc elle prend les poubelles. D'ailleurs, vous savez, les ganglions, quand on a un ganglion, quand on a une fièvre, qu'est-ce que c'est un ganglion? Eh bien, le ganglion, il est sur le trajet des vaisseaux lymphatiques. Il y a des checkpoints sur les canaux lymphatiques, il y a des checkpoints où il y a des gardiens. Ils s'appellent les lymphocytes. Lymphocytes. Lymphe, la lymphe, cytose, la cellule.
C'est pour ça que le médecin, quand il vous examine, recherche la présence
des ganglions. De ganglions. Exactement, parce que dès qu'il y a un problème, que ce soit infectieux, traumatique ou cancéreux, c'est les premiers indicateurs qui disent « attention, il y a quelque chose », c'est les ganglions. Et souvent, on découvre des problèmes en voyant s'il y a des ganglions ou pas. Voilà, c'est pour ça que palper les aires ganglionnaires, c'est toujours très important.
Alors, on a ça au niveau du cou, il y en a d'autres.
Il y en a partout, dans l'aine. Ceux qui sont accessibles, il y en a qu'on ne peut pas aller chercher. Il y en a en sous-claviculaire, il y en a au cou. Donc, quand on a un petit rhume ou une angine, on les sent, ils sont là. Il y en a dans l'aine, effectivement, il y en a sous le genou, enfin dans le pli genou.
Avant, quand les bons médecins vous examinaient encore et qu'ils vous palpaient, c'est ce qu'ils recherchaient.
Exactement, on recherchait les ganglions parce qu'on n'avait pas de moyens d'investigation qui permettaient d'aller les voir. Et donc je reviens à la lymphe. Cette lymphe, en fait, elle est chargée des poubelles. Elle est chargée aussi des bactéries, mortes ou pas, des virus morts ou pas. Et ils arrivent dans le foie et le foie, lui, il fait le grand nettoyage.
Ça veut dire que le système lymphatique se déverse dans le foie, c'est ça qu'il faut comprendre.
Exactement. Donc le foie est le premier organe lymphoïde. C'est lui le patron de la lymphe. Voilà, c'est extraordinaire.
Lymphoïde.
Voilà, donc on l'oublie parce que... on l'oublie et il y a même quelque chose d'important. Figurez-vous que quand je vous ai pris le dessin, vous avalez un steak par exemple. Vous mangez une bonne entrecôte bien grasse, ok? Vous l'avalez, elle va dans l'estomac. L'estomac va faire une espèce de bouillie parce qu'il y a de l'acidité dans l'estomac. Vous savez que dans l'estomac, il y a autant d'acidité que dans une batterie de voiture. Hein. C'est même plus.
Donc, c'est pour ça que ça pue.
Ah bah oui, quand on vomit, ça pue parce que c'est... Voilà. Donc ça, il y a du soufre. Donc il fait une espèce de bouillie, ce qu'on appelle le chyme, qui va ensuite dans la première partie de l'intestin qui s'appelle le duodénum, et après il va dans l'intestin. Et à ce moment-là, les acides gras, les graisses saturées, ne vont pas aller directement dans le sang pour aller dans la veine porte. Ils vont derrière par des canaux qui sont d'autres canaux qu'on appelle les chylomicrons. Vous savez, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et les chylomicrons vont se déverser dans le canal thoracique. Donc, les graisses saturées, quand vous les mangez, cette entrecôte, c'est peut-être une heure et demie après que le foie va les voir venir.
D'accord.
Comprenez?
Et ce qu'on appelle les graisses donc non saturées, c'est-à-dire insaturées, elles vont direct.
Elles vont direct.
Voilà.
C'est plus facile.
Ouais.
Voilà. Et en fait, je pense que... Alors, pourquoi ça marche comme ça? Je pense que c'est pour que le foie ne soit pas saturé tout de suite par des graisses saturées qui vont lui demander beaucoup de boulot. Il va pouvoir commencer la digestion et la finir avec les graisses saturées. En fait, la nature ou le créateur ont fait les choses parfaites. C'est-à-dire qu'en fait, il sait que l'homme, il peut manger n'importe quoi, puisque je rappelle que l'homme, il est omnivore. Il mange de tout.
Alors, omnivore, ça veut dire qu'il mange de tout. Voilà.
Qu'il mange omni, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et comme il mange de tout... Il fallait donc l'équiper d'un organe qui soit capable de le protéger. Et je rappelle que lorsque nous étions dans les cavernes, on mangeait ce qu'il y avait. Hein. Parce que la chasse, elle coûtait à peu près, je crois, plus de 30% des chasseurs. Hein. 30% des maîtres.
On n'était pas sûr de revenir.
Exactement. Parce qu'on voulait dévorer une bête, mais on pouvait être dévoré aussi. Et donc, qu'est-ce que faisaient les gens autour de leur caverne? Ils mangeaient ce qu'il y avait. Des racines, des trucs qui étaient probablement pleines de terre, donc pleines de germes. Donc il fallait un organe qui soit capable de nous protéger. C'est pour ça qu'il est aussi immense. C'est le plus gros organe de notre organisme après la peau. Hein? Voilà. Donc c'est important de comprendre
ça. La peau est un organe.
Donc soyez gentil avec votre foie.
Qu'est-ce qui se passe quand on mange des fibres?
Qu'est-ce qui se passe quand on mange des fibres? Alors d'abord, les fibres, elles ont...
Parce qu'on a des fibres dans la première partie de votre, de votre méthode.
Les fibres, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que, d'abord, elles ont une fonction fondamentale dans la gestion des sucres et de la glycémie. Comprenez. Si vous mangez un sucre tout seul, il rentre dans votre organisme. Dès que le sucre apparaît dans le sang, l'insuline est sécrétée. Tchac! Et à ce moment-là, la glycémie augmente d'un coup, comme ça. Mais si intelligemment, cet amidon, par exemple, va être dans des fibres, les fibres vont compliquer son absorption. Et donc, au lieu de monter comme ça, la glycémie, elle va monter comme ça. Elle va beaucoup moins monter. D'accord ? Donc ça, c'est le premier argument des fibres.
Pourquoi c'est important de manger des fibres ?
Exactement. Deuxième importance, c'est que les fibres, en fait, sont des éléments qui sont... Alors, il y a des fibres solubles et insolubles, mais ce sont elles qui nourrissent la flore bactérienne intestinale. Vous savez que dans notre intestin, nous avons à peu près un peu plus de 1000 espèces de bactéries. Il faut bien imaginer notre intestin avec plusieurs mètres, 4 à 5 mètres. Et puis, il y a tous les centimètres. Imaginez que vous aviez un peuple différent. D'accord ? Et ce peuple, chaque peuple a sa fonction. D'accord ? Et en plus, le peuple 1... est d'accord avec le 2, est d'accord avec le 3. Parce que quand il n'est pas d'accord, ça s'appelle la tourista. C'est-à-dire qu'on a... Voilà, c'est la diarrhée.
Oula.
Et sachez une chose, il y a une très brillante publication...
Ou un numéro 3 aux États-Unis.
Voilà. Il y a 5 ans, qui a été faite par une femme incroyable, une Américaine qui connaît la flore de façon incroyable. Et son nom va me revenir. Et elle a publié qu'en fait, chaque bactérie parle deux langues. Elle parle la sienne et celle de ses voisins. Donc en fait, les bactéries se parlent, c'est-à-dire qu'il y a une vraie communication. Et figurez-vous que les bactéries parlent aussi à votre cerveau, c'est-à-dire qu'elles envoient des signaux hormonaux pour le cerveau, d'accord ? Et c'est pour ça que la composition de votre flore bactérienne est très très importante. Elle vous vient de vos ancêtres, elle vient de votre mère, de votre grand-mère, ainsi de suite. Et cette flore, elle va conditionner la vie de votre intestin. Et les fibres solubles, on les appelle les prébiotiques. Pas les probiotiques, les prébiotiques, c'est-à-dire des fibres que vont boulotter les... Donc vous voyez bien que en fonction des fibres que vous mangez, vous allez plus ou moins chouchouter votre flore.
C'est elles qui nourrissent.
Et elles se nourrissent de ces fibres. Voilà. Et alors quand c'est soluble, ça va. Quand c'est insoluble, qu'est-ce qui se passe? Elles n'arrivent pas à manger, elles prolifèrent, elles font un petit gaz.
Directement dans le côlon.
Dans le côlon, qui est le fermenteur. Et le côlon va faire une deuxième fermentation, une première fermentation importante pour extraire encore un peu d'aliments dans le truc. Et ce qu'on ne peut pas extraire, eh bien, et les bactéries, eh bien, ce sont les sels. Voilà.
D'accord. C'est QFD.
Donc les fibres, c'est important. Et il ne faut pas de régime sans fibres.
Docteur Réginald Allouche est avec nous. On va continuer à parler du foie dans un instant, puisque nous avons deux foies. Oui. Un foie de jour et un foie de nuit.
Oui, exactement.
Vous nous raconterez dans un instant, docteur Allouche.
AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon.
Alors, le docteur Réginald Allouche est avec nous ce matin sur Beurre FM. Je vous ai écouté dans un podcast qui est passionnant avec une fille que j'adore, qui s'appelle Marion Kaplan.
Oui.
Il était un foie. J'étais jaloux du titre. Hein. On avait bossé dessus, je me rappelais à une époque. C'est passionnant d'ailleurs. Oui. Ça dure une petite heure et demie, donc. Voilà. Mais c'est vrai que vous, le foie, ça vous passionne. Vous pouvez en parler des heures et des heures. Alors, on a découvert récemment, finalement, que tous les organes avaient leur propre rythme, surtout le foie.
Oui. Alors, en fait, c'est normalement tous les organes sont sous les ordres d'un noyau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, qui est juste derrière le nerf optique, au niveau des yeux. Et c'est le noyau, c'est l'horloge métabolique de notre cerveau. Donc, il donne les rythmes à tout le monde. Voilà. Comme un ordinateur. Vous savez, dans un ordinateur, on a une horloge centrale. Et cette horloge centrale, elle donne le rythme à tous les systèmes, que ce soit l'UART, la mémoire, les disques, ainsi de suite. Et donc, mais chaque organe a sa propre horloge. C'est-à-dire que les cellules sont capables de fonctionner différemment et de ne plus être coordonnés. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que il y a une très bonne publication qui a été faite en novembre 2020, je crois, dans Hepatology, qui est la revue de publication pour les hépatologues, et qui a montré qu'en fait, il y a le foie de jour et le foie de nuit. Dans le foie de jour, il régule la glycémie, il s'occupe de beaucoup de choses, il fait de la coagulation, il fait les vitamines, il fait... voilà. Et puis à un moment, la nuit, on pense que c'est entre minuit et une heure, à la nuit tombée, à ce moment-là, le foie va augmenter de volume, légèrement, c'est incroyable, hein, et il va commencer à se détoxifier lui-même, c'est-à-dire qu'il va gérer les acides gras, il va nettoyer ses mitochondries, il va faire plein de choses.
Les mitochondries, pour ceux qui nous écoutent.
Les mitochondries, ce sont des petits éléments qui sont dans le cytoplasme des cellules, donc à l'intérieur des cellules, et qui font l'énergie. Sans elles, on ne peut pas avoir d'énergie. Donc c'est d'ailleurs, elles viennent de très loin, puisqu'elles viennent d'une époque où, quand on n'en avait pas, mais c'était des anciennes bactéries qui ont été intégrées dans nos cellules. Parce que l'homme, en fait, c'est un chapardeur. Tout ce qui est intéressant pour lui, il le prend, il l'intègre. Si ça marche, il le continue. Et donc les mitochondries, d'ailleurs, elles ont une forme un peu de bactérie, comme ça, avec des petites membranes. Vous verrez, allez sur Internet, vous verrez des photos. Mitochondries, M-I-T-O-C-H-O-N-D-R-I-E. C'est très, très important, parce que c'est des petites centrales de chaleur, des petites centrales d'énergie, qui font qu'une cellule peut vivre. Hein. Ça lui fait ce qu'on appelle les combustibles pour pouvoir vivre. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est des mitochondries, c'est très important. Et d'ailleurs, quand on fait de l'exercice, on augmente le nombre de mitochondries, on augmente leur rendement. Voilà. Oui. Et c'est comme ça qu'on peut aussi, comme on augmente le rendement et qu'on a de l'énergie, voilà, c'est ainsi de suite.
Bon, le foie se met au boulot,
la nuit, il se détoxifie, il augmente de volume, et jusqu'à 4h30 du matin. C'est pour ça d'ailleurs que les personnels de nuit ont souvent des petits problèmes d'embonpoint, d'obésité, parfois de diabète, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aménager l'alimentation des personnels
c'est
de nuit.
C'est un vrai problème.
C'est un vrai problème parce qu'on a absolument besoin que des gens travaillent la nuit. Que ce soit dans la santé, dans la sécurité, dans la police, il y a beaucoup aussi de gens qui se lèvent très tôt pour pouvoir nettoyer. Donc ces gens-là sont extrêmement précieux et je pense que vraiment qu'il faut s'attacher à leur alimentation et faire attention à eux. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils payent un prix avec leur santé pour la collectivité et que ce ne soit pas intégré dans les risques professionnels.
C'est voilà. Un risque pour...
C'est tout. Et je pense que ce n'est pas très compliqué, il faut juste qu'on en tienne compte et il faut juste qu'on les traite comme ils doivent être traités. Parce que sans le personnel de nuit, je vous assure, la société marcherait beaucoup, beaucoup moins bien.
Même si dans certaines administrations, on a adapté les éclairages.
Je n'ai pas dit qu'on n'a rien fait. Je dis que sur l'alimentation, il y a beaucoup d'efforts. Parce que qu'est-ce qui se passe pour les plateaux repas, par exemple, pour les infirmières ou les aides-soignantes ou brancardiers de nuit ? En fait, en général, ils ont le repas du midi, du self, qui a été truc et qu'on réchauffe. Mais c'est peut-être pas ça qu'il faut.
Il faut peut-être parce qu'il n'est pas adapté à l'heure.
Il n'est pas adapté à leur travail. Après, ça va leur donner des somnolences. Alors déjà qu'ils ont sommeil, parce qu'ils sont quand même pas dans le même cadre. Vous voyez, il y a une vraie question, et c'est des questions qui me passionnent. Hein. Personnellement, qui me passionnent, parce que je pense qu'effectivement, les rythmes liés à l'alimentaire, il faut en tenir compte. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit qui ne sont pas bien nourris. Même si ce n'est pas la volonté, encore une fois, je n'oppose pas les gens. Je dis simplement...
Avant, on ne savait pas.
On ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. On sait que les gens qui travaillent la nuit ont un petit ventre ou parfois ils ont un peu un prédiabète. Voilà. Donc, il faut adapter leur...
Bon. Donc, le foie fait son travail la nuit. Oui. L'équipe de nettoyage a nettoyé. Mm-hmm. Et le matin, qu'est-ce qui se passe alors finalement ?
Le matin, il diminue de taille. D'accord ? Et il commence à ce moment-là à s'occuper du sucre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Quand il reçoit le message, donc, il est 5h du matin, vous êtes dans votre lit. Et puis, il y a le jour qui pointe, où il y a une lumière qui s'allume, où il y a un peu plus de bruit. À ce moment-là, le noyau suprachiasmatique va envoyer une information aux glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est des glandes qui sont au-dessus des reins et qui font les corticoïdes, les hormones de la préparation au combat. Voilà. Donc, il envoie ce message... Ces corticoïdes sont sécrétés, ce cortisol est sécrété, et à ce moment-là, le foie voit le cortisol, il dit « Ah, il faut se lever, il faut aller se battre, donc je vais vous lâcher un peu de sucre pour que vous ayez un peu d'énergie. » Donc, le foie lâche du sucre. À ce moment-là, le sucre augmente. C'est pour ça que souvent, pour les gens par exemple, qui prennent un avion ou un train très tôt, s'ils se lèvent à 4h ou 4h30, 5h, ils n'ont pas faim. qui sont avec une glycémie un peu élevée. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que dès que le sucre va augmenter, ben, qu'est-ce que fait le pancréas ? Il libère de l'insuline et tout redevient à la normale. Et puis, parfois, eh ben, ça ne revient pas à la normale. Il y a beaucoup de gens qui ont des glycémies le matin qui sont élevées, alors qu'ils vont très bien, alors qu'ils ne sont pas diabétiques ni prédiabétiques. C'est tout simplement parce que leur foie est devenu insulino-résistant. C'est-à-dire qu'il n'entend plus les signaux venant de l'insuline. Vous savez, l'insuline, je rappelle, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui est une hormone qui est sécrétée dès qu'on mange du sucre. Mmh. Et cette hormone a pour mission de faire rentrer le sucre qui est dans le sang, dans les cellules. Et deuxième mission, de stocker le sucre non utilisé dans les adipocytes. Mmh. Donc elle est la patronne de la lipogénèse. C'est elle qui fait faire le gras. Voilà.
La fameuse.
Donc, si le foie... Alors c'est très intéressant. Vous avez 35 ans, 38 ans, vous faites une glycémie à jeun pour, parce que vous allez faire un prêt pour une assurance, vous allez acheter votre maison ou une voiture. Et en fait, on vous dit, tiens, la glycémie du matin, elle est à 10. Voilà. Tout le monde vous dira, bon, bah, c'est pas très... Hein. Ça, c'est une indication. Ça veut dire, il n'y a rien d'autre à part ça. Ça veut dire que votre foie devient insulino-résistant. Et si vous ne faites rien, dans 5 à 10 ans, vous pouvez venir voir apparaître un prédiabète.
Expliquez-nous pourquoi les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, ont majoritairement lieu le matin.
Ah oui, toujours.
Pourquoi ?
Parce que c'est le matin où, justement, comme il y a... Bah, c'est une très bonne question.
On se lève, en fait. Donc,
c'est pas ça, vous avez ce cortisol.
Ouais.
Le cortisol, bien entendu, il fait libérer du sucre par le foie, mais qu'est-ce qu'il fait aussi ? Il fait une vasoconstriction. C'est-à-dire qu'il va provoquer une constriction et il va avoir un effet cardiogénique, il va pousser le cœur un petit peu. Et si on a un cœur fragile et qu'on a un problème, à ce moment-là, c'est à ce moment-là où il y aura le flush d'hypertension.
Mais pourquoi c'est parce qu'on s'est levé ou
non,
ça peut arriver dans son lit allongé.
Ça peut arriver dans son lit parce que le matin, il y a un surplus de cortisol. Enfin, pas un surplus, il y a un cycle de cortisol. D'ailleurs,
on parle du cycle du cortisol.
Exactement, d'ailleurs. C'est-à-dire que si un médecin vous dit, voilà, on va doser le cortisol, il va vous dire, je le veux à 7h ou à 8h du matin. Parce qu'il n'est pas le même dans la journée, d'accord ? Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués, par exemple, et ils se disent peut-être que je n'ai pas assez de cortisol parce que je me lève épuisé. Quand on se lève épuisé, il faut voir aussi si on ne fait pas des apnées du sommeil. Hein.
Mais bon. C'est un signe, c'est un indicateur.
Voilà.
Alors, des questions qui arrivent. Docteur Alouche, pourquoi est-ce qu'on recommande de ne pas boire d'alcool quand on est sous traitement médical ?
C'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a une compétition entre quand le foie voit de l'alcool ou du fructose, eh bien, il ne fait que ça. Il va désamorcer l'alcool. Parce que l'alcool est un puissant toxique pour le cerveau. Donc, ce qu'il fait, il s'occupe de l'alcool. Donc,
En
priorité. Donc, comme il s'occupe de l'alcool, s'il voit arriver un médicament, eh ben, il s'occupera du médicament après. Donc, en fait, le fait de boire de l'alcool avec un médicament rend le médicament beaucoup plus actif. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas boire d'alcool avec les anxiolytiques, avec les antidépresseurs, avec les antibiotiques. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la dose que vous avez va être artificiellement amplifiée par le fait que vous buvez de l'alcool.
D'accord. Donc, c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec les antibiotiques. C'est vrai de tous les médicaments.
C'est vrai de tous les médicaments qui ont un métabolisme hépatique. C'est-à-dire que c'est le foie qui s'occupe. Il y a aujourd'hui des médicaments qui sont en fait, qui sont jamais inactivés. La pilule, par exemple, qui n'est pas inactivée et qui, donc, quand une femme prend une pilule, quand elle va uriner, la pilule va être dans le fleuve de façon active. D'où les problèmes, si vous voulez, que nous avons. C'est la même chose avec certains antibiotiques. C'est pour ça que souvent, il faut doser dans les eaux du robinet, il faut aussi doser les antibiotiques et les œstroprogestatifs.
Qu'on retrouve dans l'eau du robinet, qui ne sont pas filtrés.
Voilà. Donc, vous voyez que on vit dans une société. Il n'y a chez moi aucune négation. Il n'y a pas de négation. Je dis simplement qu'on vit dans une société très complexe. Et qu'on ne peut pas avoir de remède simple à des choses très complexes. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que quand j'entends il n'y a pas qu'à Faucon. C'est très compliqué ce qu'on fait.
Alors, autre question.
Mais on vit
à
68 millions de Français. Plutôt, je touche du bois en bonne santé, avec un corps médical. On dit ce qu'on dit, mais la France, il vaut mieux être soigné en France qu'à l'étranger. Excusez-moi de dire ça.
Alors, docteur Alouche, vous avez parlé de la NASH tout à l'heure. Beaucoup de personnes qui souffrent de NASH ne le savent pas. Mm-hmm. Comment on sait si on a une NASH ? Est-ce qu'il y a un examen à faire ?
Il y a un examen à faire. Il y a deux examens à faire quand on a. Alors, la NASH, en anglais non-alcoolic stéatose hépatique. En gros, c'est le foie gras qui n'est pas lié à l'alcool, parce que l'alcool aussi donne du foie gras. Mmh. Hein, voilà. Donc si on cumule les sucres, les graisses et l'alcool, eh ben, on cumule un risque de NASH. Alors, la NASH, elle n'a aucun symptôme. Et tant qu'elle reste au stade de NASH, elle est réversible. D'accord ? On peut avoir une NASH réversible. Il faut le savoir quand même. Hein.
C'est est-ce qu'on peut palper son foie ?
Non.
Est-ce qu'on...
Ça sert... Alors, quand on a un foie très gros, parce que souvent la NASH s'accompagne de ce qu'on appelle une hépatomégalie, mégalie gros, hépato foie. Mais souvent, ce qu'il faut faire, c'est une échographie. Soit on fait une échographie, on peut la compléter aussi par, un test sanguin où on va mesurer les alates. Les alates, c'est les SGPT aussi, on voit ça.
Les alates, mais il n'y a pas de Z.
Alates, A-L-A-T, qui sont des enzymes. Mm. C'est facile à comprendre. Ces enzymes, ils sont dans la cellule hépatique. Ils ont un taux qui, normalement, est inférieur à 40 ou à 55, ça dépend des labos. Moi, je dis qu'il faut qu'ils soient inférieurs à 25-30. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Si votre foie est en mauvais état, certaines cellules vont exploser. Et quand elles explosent, elles libèrent dans le sang ces alates. Donc, mesurer les alates, c'est avoir une photographie de la santé de son foie. S'il y a trop d'alates, ça veut dire que le foie est détruit. Par exemple, dans une hépatite virale, les alates montent à plusieurs centaines.
D'accord ? Donc vous le voyez tout de suite,
Tout de suite. Alors que dans une NASH, ils vont être à 40, 50, 60, 70, 100. Jamais plus.
Vous voyez, vous avez un fibroscan.
Et un fibroscan. Le fibroscan, c'est une machine qui permet de voir si, d'abord de mesurer la stéatose, d'accord ? On mesure la quantité, savoir si c'est une stéatose de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et ça mesure aussi la fibrose. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que si on laisse la stéatose, la NASH, perdurer, à ce moment-là, la défense du foie, ça va être de se fibroser. Alors, c'est quoi la fibrose ? C'est que, viens pas m'embêter, quoi. C'est-à-dire que je mets autour de mes cellules, je mets un petit mur avec des fibres, parce que j'en ai marre. Voilà. Mais ça, c'est un défaut. Comme toutes les forteresses, à un moment, on a besoin d'eau et de manger. Et donc, elle s'asphyxie. Et l'asphyxie, ça peut aboutir à la cirrhose.
Le docteur Réginald Allouche, la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie. Chez Albin Michel, la nouvelle version est arrivée. Voilà. Vous
récupérez.
Ah ouais, là, c'est un scoop. Hein.
C'est un scoop.
Moi, j'ai eu un avant tout le monde.
Voilà. Voilà. Mais ça, vous êtes, l'immense Philippe Robichaud.
Je peux. Voilà. Et vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci, docteur Allouche. À très bientôt. Passez une très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.